aujourd'hui vers le travail de Maxime Leroy, qui a notamment écrit La coutume ouvrière et qui est surtout un penseur essentiel du mouvement syndical et ouvrier en France. Il s'intéresse notamment à la question fondamentale du droit, qu'il voit comme le fruit ininterrompu du travail du peuple et non de la puissance publique. Une distinction qui nous aide aujourd'hui à penser les limites et les injustices d'un système juridique que l'on prend pour acquis, sans toujours l'interroger sur ses origines et son incidence réelle. Avec nous pour tenter d'éclairer les principes de la coutume ouvrière, Anne-Sophie Chambost, professeure des universités à l'université Jean Monnet à Saint-Étienne. Anne-Sophie Chambost, vous êtes notamment l'auteur d'une biographie de l'enfant terrible du socialisme, Pierre-Joseph Proudhon. Anne-Sophie Chambost, bonjour.
Bonjour.
Peut-être faudrait-il commencer par nous présenter un petit peu le parcours de Maxime Leroy quand il naît et comment son travail va s'ancrer dans une réalité politique et sociale.
Alors, Maxime Leroy naît en 1873. Il fait des études de droit, commencé à Paris, achevé à Nancy, qui l'amène jusqu'au doctorat. Il consacre une thèse de droit à l'esprit de la législation napoléonienne, qui est un essai critique. Donc, dès sa thèse, il est très critique vis-à-vis du droit étatique, donc vis-à-vis de la loi. Et dès sa thèse, et c'est pour ça qu'il m'a intéressé, il se révèle un penseur très inspiré par Proudhon. Donc c'est dans cette perspective-là que moi je l'ai découvert. Il ne se destine pas, malgré sa thèse, à devenir enseignant, même s'il est très impliqué dans le mouvement des universités populaires. Il devient rédacteur au ministère de l'Instruction publique et dès qu'il le peut, il devient surtout juge de paix.
À 35 ans, voilà. Dès l'âge légal.
Exactement, l'âge minimum. Et juge de paix, il le restera jusqu'à sa retraite.
On peut préciser peut-être que c'est une fonction qui est plutôt modeste au vu de son parcours en tant que docteur de droit, oui. Mais qu'il décide d'y aller tout de même, car c'est un excellent poste d'observation pour lui des évolutions sociales de la société.
Absolument, c'est un laboratoire social et par ailleurs, c'est en fait le juge de paix fait une justice de conciliation en fait, et c'est effectivement un poste apparemment très modeste, mais qu'il met vraiment au contact finalement de la société. Et puis par ailleurs, dans la mesure où assez vite il sera à Paris, ça lui permet d'entretenir une vie d'un homme de réseau, puisque c'est quelqu'un qui n'est pas finalement prisonnier de sa fonction de juge de paix, qui écrit beaucoup par ailleurs.
Qui va collaborer à un certain nombre de revues.
Absolument, qui écrit énormément, et dans des tas de champs variés, qui s'intéresse donc effectivement en particulier au mouvement ouvrier, et qui, à partir du mouvement ouvrier, réfléchit, un peu comme il l'avait fait dans sa thèse d'ailleurs, à proposer des espèces d'alternatives au droit étatique.
Mais alors concrètement, dans son action de juge de paix, il s'intéresse à l'action concrète du droit sur la vie des gens. Mmh. C'est ça qui l'intéresse en tant que juge de paix, c'est de voir quelle est l'emprise du droit sur la vie des gens et comment est-ce que ils peuvent interférer dans leur vie, comment est-ce qu'ils peuvent les aider parfois aussi.
Mmh. Absolument. Alors même si une fois de plus, hein, la justice de paix, c'est vraiment de la justice de conciliation, donc c'est pas de la technique juridique, mais effectivement, c'est pour lui l'occasion d'observer le poids du droit dans la vie des gens et d'un droit qui justement, dans sa version étatique, est pour lui symbole de force, plus que de libération et d'émancipation de toute une partie de la classe ouvrière.
Et vous nous le disiez à l'instant, Maxime Leroy a été un lecteur attentif de l'œuvre de Pierre-Joseph Proudhon. Vous pourriez peut-être nous dire ce qui intéresse Maxime Leroy dans l'œuvre de Proudhon et en quoi ça l'inspire dans son analyse du droit et de ses effets sur la société.
Bah, il trouve effectivement chez Proudhon déjà une critique de la loi et la recherche d'un certain nombre d'alternatives, avec cette idée finalement que la société peut secréter elle-même ses propres normes et qu'elle n'a pas besoin finalement en surplomb de l'État. Et par ailleurs, il trouve aussi quelque chose d'autre de très important chez Proudhon. Bon, Proudhon est un anarchiste qui, au début de son œuvre, annonce vouloir purement et simplement supprimer l'État, avant de redéfinir finalement l'État comme une sorte de tuteur de la société autour de laquelle
une pyramide, se développerait presque,
exactement, mais surtout une pyramide de grandes fonctions sociales et économiques. Et ça aussi, c'est très inspirant finalement pour Maxime Leroy.
Et alors en 1913 sort ce fameux ouvrage dont nous parlons aujourd'hui, La coutume ouvrière. Peut-être qu'on pourrait revenir sur le moment social et politique dans lequel sort cet ouvrage. On sort notamment des grandes luttes de 1906. Mmh. Vous pourriez peut-être nous dire quelles sont ces grandes luttes et sur quoi elles débouchent. Elles partent d'une Nord, des ouvriers du Nord, et elle débouche sur ce qu'on appelle la charte d'Amiens. Vous pourriez peut-être nous expliquer ce que c'est ?
Il se trouve que bon, il y a toujours eu évidemment un mouvement ouvrier assez intense. Après, pour rester juste sur la Troisième République, on peut dire quand même qu'après la répression de la Commune pendant un temps, le mouvement ouvrier a été plutôt en berne, avant de renaître progressivement, en particulier avec les lois sociales de la Troisième République et en particulier la loi Waldeck-Rousseau qui officialise finalement l'existence des syndicats. Et dans ces conditions, la question qui va se poser assez vite finalement pour les socialistes, c'est de savoir quel type d'action il faut mener. Est-ce qu'il faut mener une action politique, abandonner, comme le disent certains socialistes, le fusil pour le bulletin de vote ? Et du coup, une action qui sera plutôt réformiste, alors que pour d'autres, il faut rester dans une perspective révolutionnaire et d'action directe. Et il va y avoir une espèce de partition qui va s'opérer entre le parti et le syndicat. Et la charte d'Amiens, elle est une espèce de conséquence de cela, c'est-à-dire la volonté d'un syndicat, la CGT, puisque la charte d'Amiens est... espèce de, non pas d'acte fondateur, mais les statuts en fait de la CGT. L'idée de la CGT, c'est de rester en dehors, le syndicat reste en dehors de l'action politique.
La CGT se donne alors pour objectif, selon les termes d'Alphonse Merheim, qui est un proche de Leroy qui l'aide dans ses recherches, il se donne pour objectif de briser par la légalité injuste, cette légalité injuste pour créer un droit nouveau issu des luttes ouvrières.
Oui, donc il y a effectivement, et donc là on est très dans la logique de Proudhon, hein, il y a cette idée qu'un groupe, social, donc le groupe des travailleurs, génère lui-même finalement sa propre organisation et les règles qui vont le régir. Et c'est ce qui a intéressé dès 1903 en fait Maxime Leroy, qui a pendant 10 ans accumulé tout un ensemble de documents, de ressources et de témoignages par ailleurs, vous évoquez effectivement Merheim, et sur cette base-là, il a constitué donc cette coutume ouvrière qui est vraiment un texte tout à fait passionnant, tout à fait massif, hein, de volume, qui paraît chez Giard et Brière, qui est l'éditeur des socialistes, enfin, un des éditeurs des socialistes. Et dans ce texte, en fait, Maxime Leroy, après avoir beaucoup critiqué donc la loi étatique, propose justement une alternative, il y en aurait d'autres, mais en tout cas pour le monde ouvrier, c'est cette coutume ouvrière.
C'est ce qui est intéressant, c'est que Leroy ne se contente pas de rendre compte des évolutions de mouvement. Il n'est pas seulement historien, mais il est aussi d'une certaine manière militant, puisqu'il théorise et il revendique cette nécessité de créer un droit nouveau, issu des luttes sociales. Oui. Une émanation des luttes sociales et plus simplement quelque chose qui est imposé par l'État.
Oui, absolument. Alors, c'est un juriste, mais c'est un juriste engagé, comme il s'en trouve un certain nombre à son époque. Alors, il se trouve que le monde des juristes est aussi un peu en ébullition autour d'un certain nombre de révolutions méthodologiques. Et Maxime Leroy suit ces évolutions et il y prend part en considérant que on peut être un juriste engagé, on peut être un juriste militant et on peut aussi faire une espèce d'œuvre scientifique, parce que il aborde finalement cette question de la coutume ouvrière de façon scientifique.
C'est là que l'idée de coutume ouvrière prend tout son sens, c'est que il récuse l'idée selon laquelle en dehors d'un droit formulé et promulgué par l'État, qu'en dehors ce serait le chaos. Pour lui, c'est faux et il se fonde notamment sur le fait que la loi ne se soit pas prononcée sur ces questions, n'empêche pas qu'il y ait une forme d'engagement, d'organisation, du travail et de structuration, en témoigne notamment la hausse des grèves, la hausse du vote pour le Parti Socialiste.
Tout à fait. Alors, le législateur commence à s'y intéresser. Hein. La législation sociale de la Troisième République a quand même fini par prendre en compte effectivement un certain nombre des revendications.
Mais ce qu'il montre, c'est que ça préexiste.
Mais exactement, ça préexiste et il le dit à quelques reprises dans la coutume ouvrière et il le dit par ailleurs. Finalement, ce que propose le législateur, puisqu'il y a les premiers livres de ce qui deviendra le Code du Travail qui commence à être adopté, et qui ont été en 1910, tout ça, finalement, ça lui paraît très académique. Et c'est ce qu'il appelle la législation ouvrière. Mais à la législation ouvrière, il oppose effectivement ce droit préexistant qui est la coutume ouvrière.
Et le droit prolétarien, il emploie aussi ces termes. Et il décrit ainsi le droit comme un système de coutumes qui émanent de la société elle-même, qui se sédimente, qui se superpose, un peu comme un palimpseste de droit. Est-ce qu'on peut dire que c'est une vision presque britannique de la part de cet auteur, assez loin du droit à la française, où dans le droit, tout doit être écrit dans la loi.
Oui, alors, il y a certainement une inspiration britannique dans la mesure où on sait que les Webb, à ce moment-là, travaillent aussi sur le trait d'unionisme. En revanche, ce que moi, je trouve comme juriste très intéressant, c'est que cette coutume ouvrière, il va la formaliser comme une espèce de code, hein, puisque les deux volumes de la coutume ouvrière sont un enchaînement de livres avec des chapitres. Enfin, tout ça est très formalisé. Et je pense qu'il y a, de la part de Leroy, une volonté de rendre compréhensible par les juristes cette coutume ouvrière qu'il pourrait avoir tendance à balayer du revers de la main. Donc il en fait une présentation, et donc il y a des choix, hein, dont il rend compte aussi dans son introduction, mais il en fait une présentation qui peut parler aux juristes.
Et l'un des éléments centraux de cette élaboration d'un droit ouvrier, ce sont les syndicats, au cœur desquels, selon Maxime Leroy, se concrétise, s'élabore, se discute cette forme de droit parallèle du monde ouvrier.
Absolument, il décrit les syndicats comme des parlements dans lesquels, et il l'écrit aussi, finalement les ouvriers ont une conscience claire de faire du droit.
Leroy dépasse aussi ces syndicats en parlant du travail et des liens complexes qui unissent les syndicats, les bourses du travail, les fédérations professionnelles. Tout cela forme une espèce de toile d'araignée, d'enchevêtrement du droit. Et il montre que c'est donc beaucoup plus complexe de produire du droit que simplement de promulguer une loi, puisque c'est issu de tous ces allers-retours peut-être entre les ouvriers, les chambres de commerce, etc.
Absolument, il y a une sédimentation, mais il y a aussi une structuration finalement institutionnelle de ce monde du travail. Du syndicat aux bourses, aux fédérations. Et effectivement, il finit par déboucher dans les deux derniers livres sur cette idée d'une fédération, justement, d'un fédéralisme professionnel.
Fédéralisme professionnel qu'on peut retrouver aussi dans cette vision de la société, presque une vision organiciste, au sens où il voit la société comme un ensemble, comme un corps vivant, dont les ouvriers ne seraient qu'une partie et qui n'auraient de sens qu'ensemble.
Effectivement, ce dont il veut rendre compte, c'est de la complexité de la société. Il lui semble que la loi étatique écrase cette complexité, la loi figurant finalement une société uniforme, bourgeoise, et il apparaît à Maxime Leroy, au contraire, que la société est quelque chose d'extrêmement complexe, avec toute une infinité de corps intermédiaires qu'il faut relier les uns et les autres. Et c'est ce qu'il démontre justement à partir de cette catégorie spécifique qu'est le monde du travail.
Et pour établir le lien entre l'État et le monde ouvrier, il s'interroge autour de cette question de la représentativité et il dénonce le fait que le monde du travail ne soit pas du tout assez représenté dans quelque chose comme l'Assemblée nationale. Et il se prononce, lui, pour la création d'une assemblée spécifique ou nouvelle qui représenterait mieux ce monde du travail.
Effectivement, alors là aussi c'est un des grands enjeux du socialisme à cette époque-là, hein, c'est de savoir comment le monde ouvrier peut être représenté. Doit-il être représenté par des gens qui ne seraient pas des ouvriers ou par les ouvriers eux-mêmes, en tout cas le monde du travail, selon une vieille tradition qu'on pourra faire remonter à la commission du Luxembourg en 1848. Et donc effectivement, il trouve, entre autres chez Proudhon, l'idée en marge d'une assemblée nationale, disons classique, fondée sur le suffrage universel. Il propose cette idée d'une chambre du travail dans laquelle on retrouverait effectivement les syndicats et qui offrirait du coup un autre regard sur la société que le simple empilement des volontés individuelles qui composera la volonté générale.
Peut-être une forme de conseil économique et social avant l'heure et qui aurait véritablement du poids dans l'élaboration des normes. Il nous parle aussi, vous le disiez, de cette question des corps intermédiaires fondamentaux pour recréer du lien entre les ouvriers et l'État. Peut-être que c'est l'un des enseignements principaux que l'on peut tirer de l'œuvre de Maxime Leroy aujourd'hui, cette nécessité des corps intermédiaires pour le dialogue social.
Oui, je crois. Il suit avec beaucoup d'attention, effectivement, la naissance du Conseil national économique, dont il se félicite en 25, en 36, et en même temps dont il regrette finalement que ce qu'il produit ne soit pas assez accessible. Il considère effectivement qu'il faudrait que ce conseil devienne une véritable institution, un véritable élément du corps législatif. Et je crois que ça, c'est un aspect très fécond en fait de sa réflexion et encore assez actuel somme toute, parce qu'effectivement il faut vraiment insister sur cette complexité sociale dont il faudrait que les institutions rendent un peu mieux compte.
Et peut-être qu'on peut voir justement dans les crises actuelles qui secouent non seulement la France mais le corps social français un manque de dialogue dans l'usage des corps intermédiaires. Peut-être on a laissé trop longtemps de côté des corps intermédiaires qui sont devenus moins forts et moins utiles et qui produisent aujourd'hui les soubresauts que l'on connaît. années.
Incontestablement, je pense que le roi serait aujourd'hui tout aussi critique vis-à-vis de l'État tel qu'il fonctionne aujourd'hui qu'il a pu l'être à son époque. Et du coup, on peut se dire effectivement qu'il y a peut-être un moment raté, hein, que l'époque à laquelle écrivait Maxime Leroy était assez prometteuse à cet égard, que certains espoirs ont été déçus, mais on voit justement qu'il y a malgré tout une espèce de vivacité de cette attente d'une véritable représentation sociale et professionnelle.
Merci Anne-Sophie Chambos de nous avoir fait découvrir les travaux de Maxime Leroy. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'une biographie de Pierre-Joseph Proudhon.